ça rime à quoi ? Ça rime à quoi en compagnie de Luo Ying ? Luo Ying, après Lapin Lapin, paru au Castor Astral en 2013, dont le titre pouvait donner à sourire alors qu'il n'était question en fait que de l'enfer contemporain, je suis saisie par la terreur, un soir, au crépuscule du XXIe siècle, écriviez-vous alors. Voici aujourd'hui un second livre de poèmes, traduit en français, là encore par Xuanxu et Martine de Clercq. Ce recueil paraît chez Gallimard. Il a pour titre « Le gène du garde rouge, souvenir de la révolution culturelle ». Le mot même de « souvenir » en français est plus qu'un euphémisme. Est-ce qu'il y avait la même douceur en chinois et l'envie de donner un titre qui soit à la fois évocateur et tendre, alors qu'il est question que d'atrocité là encore ?
En chinois, souvenir est aussi un terme évocateur qui rappelle la tendresse. Mais les souvenirs laissés par la grande révolution culturelle sont très blessants. Alors j'ai choisi le terme souvenir pour me donner la tranquillité, pour donner un style ou bien un ton d'un homme ordinaire pour des souvenirs ordinaires d'un passé, mais en réalité, il s'agit des souvenirs qui sont pleins de sang.
Dès le prologue, le thème est donné. Il est question des jours de souffrance et de ce passé abominable qui vous fait, Luo Ying, vous lever au milieu de la nuit. La poésie, pour vous, c'est la manière la plus efficiente de maudire ce siècle qui fit de votre père un ennemi du peuple et de votre mère, quasi analphabète, une veuve paria, comme vous l'écrivez dans ce livre, Le gène du garde rouge.
Pour vous, ces jours sont peut-être étonnants. Vous aurez du mal à croire qu'il s'agit de la réalité. Mais pour moi, c'est ma propre expérience. C'est la réalité de mon enfance.
Et la poésie, pour dire cela, c'était la seule forme, la meilleure forme, la plus efficace, la plus puissante ?
Après le camp de concentration que les Juifs ont vécu à Auschwitz, il est difficile d'exprimer les mots de la poésie. Après la grande révolution culturelle, il est difficile d'épancher les sentiments par les termes poétiques, mais il s'agit vraiment d'une époque cruelle. La poésie, c'est une forme qui permet d'avoir plus de force pour exprimer les sentiments.
En postface, Luo Ying, vous écrivez cela, vous parlez de la barbarie nazie et des procès qui ont eu lieu après coup pour essayer d'expurger ce passé, contrairement à la Chine qui n'a pas fait le quart pour sa révolution culturelle et qui est dans le déni ou qui est dans l'oubli. Et ce livre-là, Le gène du garde rouge, se veut comme une façon d'oser dire pour enfin ne pas retomber là-dedans. Est-ce que pour vous, en Chine, dire une telle chose, ce n'est pas infiniment risqué ?
Effectivement, c'est un sujet sensible sur le plan politique. Bien que le gouvernement a déjà tiré la conclusion sur la grande révolution culturelle en la condamnant, mais on n'a pas fait un bilan précis de tous les crimes qui ont eu lieu pendant la grande révolution culturelle. Et actuellement, certains souhaitent qu'il y ait une deuxième révolution culturelle. Dans la société chinoise, je peux dire que je suis la première personne qui est exprimé ce thème de la révolution culturelle sous forme de la poésie. Je ne sais pas si je risque quelque chose, mais je sais qu'il y a déjà des contestations à ce sujet.
Ce livre, Le gène du garde rouge, suit une composition très musicale. Il s'ouvre sur un prélude qui donne à la cruauté abrupte du récit une part de chant assez étrange. Vous aviez cette notion-là musicale à l'esprit, Lo Ying, lorsque c'est le poème qui l'a emporté pour dire cela ?
Il s'agit d'une création. Bien sûr, il y a une conception préalable avant ma création. La structure de ce long poème s'appuie sur celle de la symphonie. C'est pour ça qu'il y a 4 chapitres. En réalité, j'écoutais beaucoup Tchaïkovski.
Ingzi, 2012年 10月5号 16点32分 5171东航航班 6A座 从黄山返京
Prélude 5 octobre 2012 18h32 vol MU5571 siège 6A retour de la montagne jaune à Pékin
夜半 起身倾听那自远而近的声音，可能是一匹马，可能是撒旦，也可能是一位猎杀者。他在穿越时收起了蹄子。
Je me lève au milieu de la nuit pour écouter un bruit qui vient de loin. Peut-être est-ce un cheval, ou peut-être Satan, ou bien un chasseur. Il s'avance toute griffe rentrée, à pas lents, déterminé, me poursuit jour et nuit, me guette, me prend pour ennemi, informe, d'une odeur âcre, il tousse bruyamment en tremblant, enroule sa longue langue écarlate autour de fragments d'eau sous d'âme, jamais ne vole, mais sans cesse fait battre ses ailes gigantesques, me force à fuir dans l'ombre, à siffler tel un serpent face au danger. Je me dis qu'il ne s'agit que d'une réincarnation. Retrouve mon calme. Ses râles sont puissants, saccadés, pareils à ceux du vieillard de la chambre voisine. Le passé, abominable, rampant sans un bruit comme des fourmis. Terreur et infamie en tout genre. Feu toxique obstruant les passages du monde. On imagine un anéantissement total. Alors, l'aube commence à poindre. Rose pâle, diaphane, infinie. Lui agite sa main géante pour saluer la terre en maître de l'histoire. Découvre ses crocs acérés. Souffle avec dédain sur tout le siècle. Moi, j'étends mon mépris à l'univers entier. Ciel, soleil, lune et étoile. Levant la tête pour le viser au cœur, je crie « Maudite époque !»
Vous publiez vos livres de poèmes sous un nom, Liu Ying, qui n'est pas celui de l'homme d'affaires influent que les Chinois connaissent. Pourquoi avoir pris le parti d'un pseudonyme en tant que poète ? Et que veut-il dire d'ailleurs ce nom-là de Liu Ying ?
En Chine, tous les poètes ont un nom de plume. Donc mon nom de plume, Luo Ying, vient d'un vers d'un grand poète chinois, Qu Yuan. Dans ce vers, il évoque des feuilles mortes qui tombent sur l'eau courante, qui sont emportées par l'eau courante. J'aime beaucoup cette image, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom, Luo Ying.
Il y a un détail qui d'emblée dit tout entier l'homme que vous êtes, Luo Ying, poète autant que bâtisseur des temps modernes, c'est la mention des dates d'écriture qui précèdent chaque poème. Et ce détail aussi ultra-contemporain que vous avez tenu à indiquer, celui de l'heure, mais aussi surtout celui du vol et du siège sur lequel vous vous trouvez lorsque vous écrivez parfois vos poèmes. Le lecteur français, d'en déduire que vous voyagez au premier rang de l'avion, parce qu'à chaque fois le fauteuil l'indique, et donc que le parcours du petit garde rouge, le parcours de vie, a propulsé cet enfant-là bien au-delà de son destin de mendiant, comme il est dit dans tout le début du recueil, avec la rudesse de cette vie qui a été la vôtre.
Oui, vous avez tout à fait raison. Effectivement, pour moi, par ce contraste, je voudrais mettre en scène l'absurdité de la société. Hier, j'étais un petit garde rouge méprisé, ou bien un mendiant méprisé par la société, et aujourd'hui, je suis un milliardaire. Mais ton âme ne peut pas être rachetée parce que tu as de l'argent, parce que tu es riche, parce que tu prends le vol première classe. La dignité d'un être humain dans le passé, à cette époque, a été déjà méprisée, piétinée. C'est pour cela que la richesse ne peut pas nous apporter la tranquillité. Au contraire, la richesse nous apporte une blessure plus profonde au fond de notre âme.
Les titres de vos poèmes sont sans ambiguïté. Mon père, Tados, desséché. Ma mère, la boiteuse. Et font, Lo Ying, un portrait de votre famille, frères, sœurs compris, des plus sanglants et des plus difficiles aussi. Mais en même temps, ce livre-là, Le gène du garde rouge, semble un hommage des plus tendres, parce que là aussi on peut reprendre ce mot de tendresse en dépit de la mort qui est là tout du long, un hommage au vôtre et une manière aussi d'offrir en bon fils chinois une sépulture à l'âme errante de votre père.
Bien sûr, en décrivant les malheurs que ma famille a vécu, c'est un hommage à mes proches, c'est aussi un hommage à tous les gens ordinaires de cette époque.
Et sur ce temps-là de l'écriture que vous tenez à indiquer partout en amont des poèmes, par exemple en avion entre la montagne jaune et Pékin, en transfert d'un aéroport à l'autre ou même dans une chambre d'hôtel ou en voiture, est-ce que cela signifie, Lo Ying, que vous ne pouvez écrire des poèmes que dans ce temps suspendu, dans l'entre-deux ?
Quand Rilke écrivait ses sonnets, il
a préparé pendant 10 ans et il a accompli ses poèmes en un seul mois. J'ai préparé ces poèmes pendant plus de 10 ans. Et lors de la création de l'écriture, c'était comme si c'était une explosion. À part les moments du sommeil, je consacrais tout mon temps à écrire ces poèmes.
C'est votre grand frère, Wang Yubao, ouvrier pétrolier que vous évoquez dans ce recueil-là, Lo Ying, qui vous a initié à la littérature via les bandes dessinées qu'il rapportait à la maison. Mais comment avez-vous découvert la poésie et quand avez-vous senti qu'elle serait votre alliée ?
Comme à l'époque, la société me refusait. Je me réfugiais dans les livres. Je lisais tous les livres, avec les mots, les livres avec des illustrations. Je réfugiais dans un monde de fiction. Donc je peux dire que j'ai fini tous les livres de la littérature que j'ai pu trouver à cette époque. Pendant cette période, dans la journée, je pouvais agir comme un petit voyou. Et dans la soirée et dans la nuit, je lisais des livres sous le lampadaire.
Et la poésie ?
Je peux citer les poèmes comme ceux de Tagore, de Pushkin et de Whitman.
Dans un poème, Lo Ying, où vous racontez votre enfance, lorsqu'on vous surnommait Petite P, que vous mouriez de faim au sens propre du terme, la manche de votre manteau enduite de morve, étanche comme du ciment, comme il est écrit dans la traduction, rejetée de toutes parts, vous terminez sur ce vers. N'avoir jamais porté le foulard rouge continue de me ronger le cœur. Comment faut-il l'entendre ?
Vous savez, pendant la grande révolution culturelle en Chine, chaque enfant, pourvu qu'il soit sage, ait le droit de porter un foulard rouge, signe d'un enfant sage accepté par la société. Et moi, je ne l'avais pas, parce que j'étais considéré comme le fils d'un réactionnaire. J'étais exclu de cette société. Donc la porte était fermée devant moi. Oui, bien sûr, cette douleur reste toujours dans mon cœur. Comme ce que Freud a dit, le vécu de l'enfance agit toujours sur le reste de la vie. C'est ce que je ressens aussi.
France Culture, ça rime à quoi ? Sophie Nolot.
Vous résumez, Lo Ying, dans ce livre de poèmes, votre ascension fulgurante en une simple incise, après avoir fait fortune. Ailleurs, vous dites que la lecture du Comte de Monte-Cristo vous inspira le grand projet de consacrer votre vie à vous venger des injustices. La poésie à vos yeux aujourd'hui, que vous ne manquez plus de rien, n'en a que plus de prix.
Quand j'écrivais ces poèmes, ou bien la poésie pour moi, est une façon de me poser cette question. Quelle est en réalité l'humanité ? Parce que j'ai vécu des époques où les gens étaient comme des loups qui s'entretuent. J'ai aussi eu l'occasion de voir des personnes très gentilles. Pour moi, écrire les poèmes, c'est montrer aux générations postérieures qu'on a vécu une époque d'absurdité. Il faut absolument qu'on évite que cette époque revienne.
Je ne connais pas le dieu de la mort, bien que je le côtoie depuis l'enfance. J'ai failli être dévoré par un loup, enterré vivant, faire une chute fatale en montagne. À 11 ans, seul dans un temple abandonné du Mont Elan, j'écoutais le loup hurler. Toute la nuit, j'ai lancé des pierres dehors, le corps secoué de tremblements. Lorsqu'il m'arrive de repenser à cette longue nuit, je sens la colère m'envahir. Envoyé à la campagne, faute de loup, j'ai abattu de nombreux chiens. À 14 ans, j'ai ouvert la tête d'un gars avec une ceinture à boucle de cuivre. Son oncle paternel m'a attrapé et mené en voiture jusqu'au bord du fleuve jaune. Il a creusé un trou, m'a ordonné de sauter dedans, a menacé de m'enterrer vivant. Je l'ai toisé d'un air hautain, injuriant sa famille et tous ses ancêtres. Il a poussé un soupir et monté en voiture, puis s'en est allé tête haute. J'ai marché jusqu'au lever du jour et me suis évanouie devant la porte de ma maison. Cueillant des abricots sauvages sur le mont Elan à l'automne, je suis tombée d'un rocher. Un berger m'a transportée chez lui, m'a fait boire l'urine de son enfant. C'est sans doute ce qui m'a sauvée. Je suis rentrée chez moi dans un camion transportant du sable. Puis, je suis restée prostrée contre un mur, sans boire ni manger, l'air abattu. Après avoir fait fortune, j'ai appris lors d'un examen de santé que l'artère de mon foie avait jadis été endommagée. Je suppose que lorsque cela s'est produit, le dieu de la mort cuvait son vin et devait être endormi.
Il y a tant de violence, Lo Ying, dans ce poème, comme dans tout le livre, Le gène du garde rouge, mais raconté avec tant de sang-froid aussi que le chant s'inverse presque jusqu'à bercer cet enfant qui s'en est sorti. D'ailleurs, votre histoire ressemble parfois à ces contes dans lesquels les enfants manquent d'être dévorés par les loups. La peur est un sentiment qui aujourd'hui ne vous épouvante plus ?
Pour moi, la mort, la peur, les remords n'existent plus. parce que j'ai beaucoup vécu. Et comme je suis aussi un alpiniste, j'ai vécu des moments intenses au sommet de la montagne. Je pense que le fait que je peux vivre jusqu'à présent prouve que je suis une personne chanceuse. Donc, je n'ai plus peur de rien, je suis reconnaissante.
Et est-ce que dans ce parallèle que vous faites, Loïing, avec l'alpinisme et donc la haute altitude, est-ce que la poésie, à vos yeux, serait aussi un surcroît d'oxygène ?
Pour moi, être un alpiniste, c'est pour faire face aux défis. Parce que plus haut on monte, on ressent plus de difficultés pour la respiration. C'est comme une vengeance à l'égard de la société. Ça veut dire surmonter des difficultés. Comme dans la création poétique, quand je surmonte les difficultés de l'écriture, je ressens un plaisir. Et le plaisir de pouvoir offrir un corpus original ou bien d'être original. Bien sûr, je ne peux pas me venger contre la société comme le comte de Monte Cristo. Je ne peux pas assassiner ni tuer. Donc, c'est par cette façon que je me venge, que j'existe.
Ce qui fait de vous, Loïing, le plus confucéen des poètes taoïstes, en quelque sorte.
Je me trouve plus profondément sauvage. Je pense qu'il y a un sang sadique dans mon fort intérieur, parce que quand je grimpe les montagnes, je veux grimper la montagne la plus élevée. Quand je fais de la musculation, je veux que le poids soit encore plus pesant par rapport au jour précédent. Quand je travaille, je veux que mon emploi du temps soit très très stressant. Peut-être il existe une tonalité taoïste ou confucienne dans mes poèmes, mais pour moi, je ressens aussi ce côté sauvage.
Et ce livre-là, Le gène du garde rouge, souvenir de la révolution culturelle, il est traduit en France chez Gallimard, dans quelques autres pays européens également. Est-ce qu'il existe en chinois ?
Ce livre a rencontré des difficultés pour se faire publier en Chine parce que c'est un sujet sensible. Je ne sais pas si un jour ce livre sera publié en Chine ou non, mais je l'espère. Parce que sa publication future en Chine peut signifier que la société est consciente de la barbarie, de la sauvagerie que le pays a commis à cette époque.
L'histoire est corrompue, jamais il ne faut lui faire confiance. C'est l'un des vers de ce poème « Les fugitifs corrompus », Loïing, ces fugitifs corrompus que vous reconnaissez partout, jusque dans les rues de Los Angeles. Cette phrase-là, « L'histoire est corrompue, jamais il ne faut lui faire confiance », c'est une phrase que vous pouvez prononcer naturellement chez vous.
Depuis l'époque des Lumières, l'humanité ne cesse de progresser, mais ce progrès de l'humanité nous emmène vers les ténèbres. Nous pouvons citer deux grandes guerres mondiales durant le XXe siècle. Donc, la question qu'on se pose, c'est que le progrès technique, le progrès scientifique, qu'est-ce que ces progrès nous offrent à nous, l'humanité ? Nous ne pouvons voir que les gens s'entretuent. Nous ne pouvons observer l'inégalité et la souffrance des gens. Et dans ce sens, on peut dire que l'histoire est corrompue.
Et vos proches, Loïing, vous considèrent comme un poète ?
J'ai un site de la poésie qui publie mes poèmes. Ceux qui visitent ce site les internautes sont au nombre de plus de
400 000.
Maintenant, non seulement mes proches, mais aussi toute la société chinoise reconnaît que je suis un poète. Je suis un poète industriel.
Le pays de nulle part. 16 novembre 2012, 4h37, Shanghaiwan, Pékin.
民族的记忆无法抹去，因此人们开始怀念无产阶级文化大革命。 那种生死的痛快，那种让当官的下跪情景，那种把富人抄家砍头的情景，使人迷恋。人们打招呼时会像阿Q劈手咔的一声，表示属于革命者。
Il est difficile d'effacer les souvenirs d'une nation. C'est ainsi qu'on se met à éprouver de la nostalgie pour la révolution culturelle. Les enjeux de vie ou de mort. Les cadres forcés de se mettre à genoux, le pillage des demeures des riches, puis leur exécution, comme tout cela est fascinant. On se salue en claquant des doigts à la manière d'Arke pour montrer son appartenance au camp révolutionnaire. On poste sur le site internet Pays de nulle part des éloges funèbres en l'honneur de la bande des quatre ou à la mémoire de Jiang Qing. Ma Lisheng a répertorié 8 courants de pensée prenant le retour à la lutte des classes. Le fait de figurer sur la liste Forbes ne risque-t-il pas alors de m'attirer des ennuis à l'idée qu'on pille ma maison, s'empare de ma fortune, me traîne dans la rue, fasse de moi un pauvre type sans le sou? J'éclate soudain de rire. N'ai-je pas moi-même été autrefois haineux, révolté, impitoyable? L'histoire a suivi un certain cours depuis 30 ans. Les Chinois ont envie de changement. La révolution culturelle a pris fin et sans perspective de lutte, la nation semble s'ennuyer. Pourtant, le pays de nulle part n'est pas dépourvu de souillures. La gloire d'un général repose sur les ossements de milliers de soldats. Aussi faut-il à notre patrie une multitude de gardes rouges prêts à monter à l'assaut. Je connais ces 8 courants de pensée qui veulent réécrire l'histoire. On a laissé une fraction de gens s'enrichir. Seront-ils exterminés les premiers? Je me lève en pleine nuit, cherche mon brassard au clair de lune, vérifie qu'il est encore rouge. Je me vois dans le miroir, d'un blême, regard éteint, ayant l'air ni d'un révolutionnaire, ni d'un pauvre air. Qui serais-je au pays de nulle part? Un sale riche dans le collimateur de la révolution ou un garde rouge aux poches bien pleines?
Le gène du garde rouge, souvenir de la révolution culturelle par Liu Ying, est publié chez Gallimard. Dans une traduction à 4 mains et à 2 voix comme ce soir, signée Martine de Clercq et Xuang Shu. Sarima Kwa, 24 heures sur 24 sur franceculture.fr pour réécouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Sarima Kwa, Valérie Lavalard, Bruno Mourlan, Sylvia Favre, Patrick Molinier, Sophie Nolo. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.